parole d'un père de famille avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Pourdie, bonjour. C'était il y a plus de 30 ans. L'amiral entre dans l'amphithéâtre de l'école navale où sont formés les officiers de la Marine nationale, futur cadre de l'institution. La centaine d'élèves se met au garde-à-vous pour saluer le nouveau conférencier en espérant un peu qu'il ne sera pas trop long. Toutefois, à peine le seuil de l'amphi est-il franchi que l'atmosphère devient tout autre. Un homme fin, distingué, au regard d'un bleu céleste et enfantin, éclaire son visage, souligné par un sourire d'une grande douceur et d'une humble bienveillance. Le professeur Lejeune vient présenter à cet auditoire militaire ce qu'est la dignité de l'homme, de tout homme. Dire que son propos a été écouté est en dessous de la vérité, tant les élèves ont été saisis par son ouverture d'esprit, la simplicité et la limpidité de son élocution, la pertinence de ses remarques et la richesse de son expérience. Bref, l'adhésion était totale, et c'est avec un enthousiasme... que les futurs chefs de la marine du début du XXIe siècle ont reçu un témoignage direct de ce qu'est le charisme d'un chrétien. Se souviennent-ils aujourd'hui de cette rencontre avec celui que le pape François vient de déclarer vénérable? Je n'en serais pas surpris. Il manque encore un miracle qui doit être obtenu par son intercession, mais je n'en doute pas. Pour ma part, je considère que la vie du professeur Lejeune est un premier miracle. À peine diplômé, ce scientifique a rapidement connu une renommée internationale comme représentant de la France à l'ONU sur l'effet biologique des radiations atomiques. Au sein d'une équipe de chercheurs, il contribue ensuite à la découverte du rôle des gènes dans certaines maladies à l'origine inconnues à l'époque, notamment la trisomie 21. Il est ensuite très sollicité dans le cadre de ses découvertes pour s'exprimer tant aux États-Unis qu'en Union soviétique, en dépit de la guerre froide qui oppose les deux superpuissances de l'époque. Le professeur Lejeune se trouve bientôt confronté à l'évolution des mentalités qui, progressivement, légalise l'avortement en France et il dénonce avec courage les dérives eugéniques qui ne manquent pas de se produire. En effet, près de 97% des embryons porteurs de la trisomie 21 font l'objet d'un avortement, tandis que les précautions initiales entourant cette pratique de l'avortement, à l'origine exceptionnelle et liée à des raisons graves, notamment de santé de la mère, disparaissent progressivement pour les banaliser complètement. Le combat du professeur Lejeune pour défendre ce qu'il appelle les petits parmi les plus petits va lui coûter très cher professionnellement. En 1982, les subventions de l'État lui sont refusées. Il dépendra alors de l'aide financière venant de l'étranger pour poursuivre ses activités de recherche et de soins. Mais il lui en coûtera également socialement, car lui-même comme sa famille seront la cible de discriminations, d'insultes et de menaces. Il est en particulier attaqué par le monde scientifique, à qui il rappelle « La médecine a dès longtemps choisi et lutte depuis toujours contre la maladie et contre la mort, pour la santé et pour la vie. Car même lorsque la nature condamne, le devoir du médecin n'est pas d'exécuter la sentence, mais bien de commuer la peine. » Cette affirmation revient en écho dans la situation actuelle que nous connaissons, avec la confusion des expertises qui entourent la gestion de la pandémie du coronavirus. Mais surtout au moment où le projet de loi bioéthique est en discussion en France. Dans cette dernière phase de sa vie, le professeur Lejeune va cristalliser autour de sa personne une opposition fondamentale qui demeure et qui est le signe du caractère prophétique de son action. Il est soutenu par les personnes qui reconnaissent la vérité de ce combat pour la dignité de chaque être humain, de sa conception à sa mort naturelle. D'autre part, il suscite la haine des personnes qui prônent une certaine conception de la liberté, et pour lesquels un embryon humain, quel que soit son patrimoine génétique ou son état de santé, n'est pas un être humain, c'est-à-dire qu'un fœtus conçu par un homme et une femme n'est pas une personne. Sa foi qu'il ne cache pas et sa compétence scientifique sont connues et appréciées à Rome, puisqu'il devient membre de l'Académie pontificale des sciences à partir de 1974. Cette académie regroupe des experts internationaux pour informer le Saint-Père sur les données et les évolutions de toutes les sciences. Jérôme le Jeune s'engagera pour défendre le bien fondé de la position de l'Église, exprimée par le pape Paul VI dans l'encyclique Humanae Vitae, qui affirme que l'union conjugale ne peut être dissociée de l'ouverture à la fécondité. En effet, pour le professeur le Jeune, toutes les dérives issues des pratiques de contraception et d'avortement font le lit d'une chosification de l'être humain et conduisent au reniement de sa propre dignité. S'appuyant sur sa foi et sur des arguments de raison, il prendra régulièrement la parole pour dénoncer les perversions qui s'inscrivent dans les relations sexuelles et dévoient leur signification profonde. Dissocier l'enfant de l'amour est pour notre espèce une erreur de méthode, dit-il. La contraception, qui est faire l'amour sans faire l'enfant, la fécondation extracorporelle, qui est faire l'enfant sans faire l'amour, l'avortement, qui est défaire l'enfant, et la pornographie, qui est défaire l'amour, se trouvent à des degrés divers, incompatibles avec la morale naturelle. Le 13 mai 1981, Jérôme le Jeune est invité avec son épouse Birte en audience privée par le pape Jean-Paul II. Alors qu'ils quittent le pape vers 14h et prennent l'avion pour Paris, le Saint-Père est victime d'une tentative d'assassinat. Par une sorte de communion des saints, le soir même, Jérôme le Jeune se sent mal et est hospitalisé en urgence. Cette affinité des deux grands défenseurs de la vie et de la famille se concrétisera en février 1994 avec la désignation par Jean-Paul II du professeur le Jeune comme premier président de l'Académie pontificale pour la vie. En avril 1994, lors des obsèques du professeur le Jeune, le pape Jean-Paul II, qu'il appelle frère Jérôme, exprimera comme en anticipation des vertus héroïques du futur vénérable ces quelques termes. Le professeur le Jeune a pleinement assumé sa responsabilité particulière de savant, prêt à devenir un signe de contradiction, sans considération des pressions exercées par la société permissive, ni de l'ostracisme dont il était l'objet. Sa femme Birte poursuivra l'œuvre de son mari avec la fondation Jérôme le Jeune, qui s'est donnée pour mission de continuer la recherche, le soin et la défense des personnes atteintes d'anomalies génétiques, mais également et plus largement de promouvoir une conscience bioéthique respectueuse de toute vie humaine, de la conception à la fin naturelle. La Fondation Le Jeune a su développer l'œuvre du professeur au niveau international et a suscité un formidable élan dans la prise de conscience des enjeux de société autour de la vie humaine et de son sanctuaire le plus naturel, la famille, constituée d'un père et d'une mère. À ce titre, les différents mouvements qui ont suivi, en particulier l'Alliance Vita et plusieurs autres dans le monde, sont les héritiers de sa pensée et de son engagement. Il est même encourageant de découvrir dans le monde médiatique actuel le foisonnement de livres et de films qui rendent leur dignité non seulement aux personnes souffrant de la différence, notamment liées à des anomalies génétiques, mais rendant leur propre dignité à leurs parents, anciennement accusés d'avoir une responsabilité dans la transmission de l'anomalie, aujourd'hui ostracisés pour avoir, souvent en connaissance de cause, accueilli la richesse d'un enfant différent, chemin de croix, chemin de joie. Je vous recommande à ce titre, parmi la grande diversité de films abordant la question du handicap, physique et mental, le film « Apprends-nous à t'aimer », ainsi que son bonus. C'est une source de joie et d'espérance. Merci, professeur le Jeune, pour ce miracle actuel qui nous ouvre à l'accueil du plus petit parmi les enfants des hommes. Merci pour ce courage transmis à cette génération qui, avec ses aînés, manifeste tous, malgré un environnement très manipulé, pour défendre le caractère sacré de la vie et de la famille. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé. À la prochaine fois.
Parole d'un père de famille.